Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
Et à 8h48, avant de retrouver le petit déj de lecture avec vos appels, d'ailleurs au 0826-300-300, tout de suite, qu'est-ce qui fait parler ce matin? On retrouve Félix Mathieu.
Oui, Félix Mathieu, on regarde avec vous la une des journaux et dans Midi Libre, l'offensive sécuritaire.
Et oui, à propos de la visite du président Macron hier à Montpellier, on le voit d'ailleurs en photo, salué par des policiers à la sortie. Un président qui a donc annoncé des renforts de police, 10 000 nationalement sur tout le quinquennat, 50 à Montpellier. Il a été hué, pris à partie dans les quartiers qu'il a visités. C'est aussi d'ailleurs la une de Libération, une photo d'Emmanuel Macron. Et ce titre, le petit Nicolas, police, prison, drogue, reprenant une rhétorique sarkozyste, Emmanuel Macron lance sa pré-campagne à droite toute, selon Libération.
Autre gros sujet du jour, hein, Félix, l'Europe qui parie sur les vaccins pour contrer les variants, c'est ce que dit le Figaro.
Hein. Oui, dans un entretien au Figaro, Thierry Breton assure que 70% des Européens pourront être vaccinés d'ici à l'été, seul moyen de gagner la course de vitesse face aux mutations du coronavirus, selon le commissaire européen. AstraZeneca, comment rétablir la confiance pour le Parisien aujourd'hui en France ? Le vaccin britannico-suédois, pourtant considéré comme efficace par les autorités de santé, suscite de plus en plus de méfiance chez les Français. Mais il reste une composante de la stratégie nationale de lutte contre le virus, nous explique Le Parisien. La Provence a des doutes quant à la date du 15 mai, en tout cas pour ce qui est du déconfinement. Le gouvernement a confirmé hier un début de déconfinement progressif le mois prochain. Mais face à la situation épidémique, l'objectif de la mi-mai semble difficile à tenir, selon La Provence.
Oui, avec Olivier Véran qui parle dans le Télégramme notamment d'un possible déconfinement territoire par territoire. En tout cas, on pourra en parler dans quelques instants. Merci beaucoup Félix Mathieu. On poursuit cette revue de presse avec Roland Segui, rédacteur en chef adjoint à La Montagne. Bonjour.
Bonjour.
Pour découvrir ce qui fait la une de votre côté à La Montagne, notamment une question de cybercriminalité aussi, c'est ça ?
Tout à fait, dans notre édition du Cantal, la cybercriminalité qui touche aussi les territoires ruraux, un département qui était jusque-là plutôt épargné. Et qui finalement, on voit le nombre de plaintes exploser un petit peu comme partout avec des affaires finalement qu'on connaît, l'histoire d'un enseignant du Cantal par exemple qui est victime de chantage parce qu'on aurait trouvé des vidéos pornographiques sur son ordinateur, une fille de 12 ans qui croit envoyer des photos d'elle dénudée à un camarade de son âge alors qu'il s'agit en fait d'un homme de 30 ans. Voilà ce genre d'histoire qui jusque-là ne touchait pas trop le Cantal mais qui explose en plein visage.
Du côté de la Creuse, vous parlez notamment d'une famille mobilisée pour retrouver une nonagénaire qui a disparu il y a 5 mois, c'est ça ?
Oui, tout à fait, une disparition mystérieuse, puisque un dimanche de novembre, Odette, 90 ans, disparaît de son domicile. On imagine qu'elle est partie faire son tour habituel, mais depuis, plus aucune nouvelle et aucune trace, malgré de gros moyens déployés sur place, à la fois par la gendarmerie, qui a utilisé des équipes cynophiles, des plongeurs pour sonder les étangs, un hélicoptère, des drones également, mais aussi avec la mobilisation de la famille, qui a sonné la mobilisation sur les réseaux sociaux, qui a permis de lancer de grandes recherches débattues tous les week-ends depuis 5 mois. Et malgré tous ces moyens déclenchés, toujours rien, aucune trace. C'est le mystère qui reste complètement entier.
Un mot pour conclure rapidement sur justement plus léger et peut-être pour vibrer ce soir avec du foot. Et le Clermont Foot qui vise la montée en Ligue 1 avec un match capital ce soir.
Tout à fait, c'est l'objectif du Clermont Foot de cette belle saison. Ouais. Et donc le Clermont Foot qui se déplace au Paris FC ce soir à 20h, un choc de haut de tableau puisque le Clermont Foot est actuellement 3e, Paris FC 5e. Donc vraiment on compte sur les Clermontois pour essayer de remonter un petit peu la pente parce qu'après ils ont eu plusieurs cas de Covid, ça a été un petit peu plus compliqué de revenir. Mais là ils sont bien repartis, donc on espère que ça va continuer. Et puis il y a toute l'Auvergne qui est plutôt une terre de rugby par nature, mais qui est en train de monter en pression et de vibrer un petit peu plus pour le foot.
C'est cool, c'est bien en tout cas. Allez le Clermont Foot, merci beaucoup Roland Segui, rédacteur en chef adjoint de La Montagne, donc bien sûr à retrouver dans La Montagne aujourd'hui.
Allez, à 8h52, sécurité, laïcité, le président Macron sur tous les fronts, on va en débattre tout de suite dans le petit déj de l'actu avec nos éditorialistes de retour, Éric Revel, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. Rebonjour messieurs, dames.
Rebonjour.
Bonjour.
On va parler bien sûr de tous ces sujets. Alors on vous entendait Alexis Poulain à 7h20 pour votre édito politique. Vous parliez notamment de diversion, c'était votre terme sur ces questions de sécurité, de laïcité. Éric Revel, pour revenir sur ce mot-là utilisé par Alexis Poulain, pour vous aussi, il y a une idée un peu de diversion, vous sentez, à un an de la présidentielle notamment, avec cette crise sanitaire aussi ?
Ah bah oui, enfin je sais pas si on peut parler de diversion, mais en tout cas la campagne électorale est lancée, Emmanuel Macron candidat à sa propre succession, et puis surtout il a dû regarder les trous dans la passoire de l'exercice de son pouvoir présidentiel, et il s'est aperçu qu'il y avait un gros trou qui s'appelait sécurité, ou insécurité, donc à partir de là, bah, il est parti en campagne, il était à Montpellier dans un quartier chaud hier, il a annoncé un peu partout la création de postes supplémentaires de policiers,
à Marseille,
voilà, la sécurité est devenue le cheval de bataille d'Emmanuel Macron, c'est très clair, puis le top départ a été donné hier par cette interview fleuve dans le Figaro, en plus, bon, forcément, il ne s'adresse pas à n'importe quel lecteur.
Ouais.
Et puis...
Alors Elisabeth, on va juste laisser finir très rapidement la dernière phrase d'Éric.
Aussi, qui lui reste à combler, à mon avis. Ouais.
Elisabeth, vous vouliez réagir là-dessus?
Moi, je réagis à ce que dit Alexis quand il parle de diversion, mon cher Alexis. En gros, si je suis votre raisonnement, pour qu'il n'y ait point diversion, eh bien, il faudrait que le président ne s'intéresse pas à ce qui angoisse et intéresse les Français au premier chef. Excusez-moi, ça me paraît assez légitime qu'un candidat ou qu'un président, d'ailleurs, veuille répondre aux questions qui sont celles qui préoccupent les Français et qui, en plus, leur pourrissent la vie au quotidien.
Donc, Alexis Poulain,
c'est tout à fait... Je ne vois pas par rapport. Je ne vois pas par rapport à quoi diversion, parce que entre nous, si vous croyez qu'on va s'arrêter de parler de la. Mais quoi, vous croyez vraiment qu'on va s'arrêter? Enfin, je trouve cette logique chouïa complotiste, c'est-à-dire en gros, c'est pour pas que vous pensiez à la pandémie.
Oh, le mot est lancé, attention.
Non, mais franchement, Alexis,
excusez-moi
là.
Il y a une pandémie, on n'est pas au courant.
J'essaye de mettre un peu d'ambiance là.
C'est parti, Alexis.
En parlant de pandémie, c'était drôle de voir ces scènes de selfies où tout le monde est les uns sur les autres, sans masque, sans gestes barrières, comme quoi vraiment c'est un beau cirque, tout ça. C'est sûr. Non, mais il n'y a pas de conspirationniste, soit que ce soit. Je parle de diversion parce que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a plus de stratégie. C'est vraiment action-réaction. Il y a le cas, bien sûr, du procès Halimi qui n'a pas eu lieu. Hop, il faut changer la loi. Alors, ce procès devra avoir lieu, c'est sûr. Mais on voit bien que c'est une excitation totale d'Emmanuel Macron qui essaye de se raccrocher à tout ce qu'il peut parce qu'il voit bien que la gestion de la crise sanitaire est un fiasco. Ça commence à vraiment se voir. Pour le coup, la France est comparée à l'Inde, au Brésil. On parle d'un Bolsonaro français en ce qui le concerne. Ça fait mal. Et là, on voit bien que la sécurité, c'est pas quelque chose de réfléchi non plus, c'est parce qu'il y a eu le procès des policiers, que ça s'est mal passé et qu'il doit faire une réponse immédiate. Là où je parle de diversion, c'est qu'on voit que...
Vous pensez que l'interview du Figaro, elle a été faite samedi soir, franchement. La sécurité, c'est un thème régalien et les Français, aujourd'hui...
Alors, Elisabeth, Macron a un quelconque crédit sur le régalien? Est-ce que vous croyez que cette agitation communicationnelle va changer quoi?
Ce sont deux questions. Question séparée, qu'il ait du crédit ou pas, ça c'est autre chose.
C'est bien pour ça qu'il parle de diversion. C'est qu'il prend pas ça au sérieux.
On laisse finir, Elisabeth.
On vous écoute,
Elisabeth.
Non, mais non, parce que la diversion, ça veut dire, pour pas que vous pensiez au vrai sujet, voilà, on vous amuse avec la sécurité. Il se trouve que à l'agenda d'Emmanuel Macron, et depuis fort longtemps, si vous voulez, il sait que la présidentielle, il n'est pas plus idiot que vous ou moi, donc il sait parfaitement que la présidentielle va très largement se jouer, pas seulement sur l'épidémie, comme on nous en rebat les oreilles, mais sur ces thèmes régaliens, la sécurité, l'immigration, l'intégration ou l'assimilation, évidemment, enfin, bien qu'il n'en soit plus question. Et en conséquence de quoi, je pense qu'il avait effectivement l'interview du Figaro n'a évidemment pas été faite en 24 heures, donc tout ça était prêt avant le verdict de Viry Châtillon. Après que sa réponse soit crédible, ça je vous l'accorde, j'ai trouvé cette interview parfaitement décevante, ça oui, mais qu'il veuille si vous voulez nous amuser en quelque sorte, nous faire penser à autre chose en parlant des thèmes qui nous préoccupent au premier degré, non. Que diriez-vous s'il n'en parlait pas? Que diriez-vous si Emmanuel Macron faisait comme s'il n'y avait pas d'insécurité?
Éric Revel, juste pour rebondir là-dessus, la question sécuritaire, c'est une question qui se pose vraiment. Vous avez l'impression que c'est juste pour cacher la gestion de la crise sanitaire actuellement, ou que vous sentez finalement qu'il y a des mesures concrètes, en tout cas, qui se mettent en place? Il y a une vraie volonté d'Emmanuel Macron d'agir vraiment sur cette question-là, sur cette thématique-là?
Bah, y a les deux, mais c'est vrai que c'est pas du tout. Enfin, c'est pour ça que je posais la question de la diversion tout à l'heure par rapport à l'édito d'Alexis. C'est qu'en réalité, en fait, il est devenu politique, notre président de la République. Donc il voit bien là où il a des faiblesses. Il y a un vrai problème qui est un problème de sécurité en France, hein, et pas de sentiment d'insécurité, comme a pu le dire Dupond-Moretti. Et en face de ça, il se dit, mais si je suis candidat et je vais l'être, comment est-ce que je fais pour répondre à cette urgence française qui sera dans le débat ? Moi, je crois qu'au-delà de la question de l'insécurité, Elisabeth, il y a un sujet, vous savez, c'est un espèce de sujet ombrelle, un peu un sujet chapeau qui va être au-dessus de tous ces sujets, comme les sujets centraux de l'insécurité, c'est l'autorité républicaine. C'est-à-dire que...
Oui, vous avez raison.
Je pense que c'est celui qui incarnera le plus l'autorité républicaine, parce qu'en fait, tout ce qu'on vit aujourd'hui, le fiasco de la vaccination... le sentiment l'insécurité, le problème de l'immigration et d'autres problèmes. En fait, tout ça, c'est recouvert par un poids très fort, me semble-t-il, un sujet très fort, me semble-t-il, qui est celui de l'autorité républicaine. Or, comme on le dit depuis longtemps, non seulement il ne s'est pas intéressé à la sécurité au début de son quinquennat, Emmanuel Macron, mais... Il n'incarne pas, peut-être que c'est dû à son jeune âge ou à la façon dont il a fait, dont il fait de la politique, mais il n'incarne pas l'autorité républicaine. Donc ce sujet-là,
ça, c'est vrai,
il est presque prévalent au reste, sous lesquels on trouve l'insécurité, l'immigration, la réforme, le fiasco sanitaire.
Non, mais vous avez raison, c'est le chapeau.
Éric, sur la question de la crise sanitaire, il y a quand même eu de grosses erreurs. Alors Alexis parlait notamment de la comparaison avec le Jair Bolsonaro français. Est-ce qu'il y a...
Oui.
Voilà. Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce qu'il y a un côté excessif sur cette comparaison ?
On peut faire une comparaison avec Bolsonaro qui a refusé de confiner le Brésil au début un peu à la Trump. Enfin, je vois pas le rapport. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que depuis le début, bon, on va pas le répéter mille fois, mais c'est vrai qu'on est passé à côté de tout. Ouais. On est passé à côté de la question des masques. Enfin, vous connaissez toute la litanie des problèmes qu'on a connus et qu'on continue de connaître. Et puis d'une certaine manière, on peut se dire, mais en fait, Emmanuel Macron, il a été en avance sur la remise en cause potentielle de l'AstraZeneca en disant l'un des premiers, attention, il y a peut-être un problème, on suspend la vaccination avec ce vaccin. Mais n'empêche que, à son corps défendant, c'est aussi lui qui a jeté la défiance sur ce vaccin, dont je rappelle quand même que les médecins continuent de dire que le bénéfice-risque continue d'être à l'avantage du bénéfice. Donc on est dans la situation, vous la rappeliez tout à l'heure, hein, où à Nice, on a un vaccinodrome immense qui a fermé parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner à l'AstraZeneca.
Donc
tout ça, si vous voulez, c'est quand même y compris les rouages plus que grippés de l'administration de la santé dans notre pays. Tout ça fait que ça donne une image très 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 compliquée de ce qui se passe en ce moment. On ne sait pas trop si réellement on va être déconfiné au mois de mai. Donc tout ça, ça donne. Mais de là à le comparer à Bolsonaro, bon là, je trouve que
Ça, je trouve ça totalement délirant.
C'est pas moi. Non, mais vous avez quelques scientifiques commencent à s'inquiéter en disant je n'ai pas l'impression que le but de l'exécutif soit de contrôler le virus, au contraire. Et ça, c'est des scientifiques qui commencent à le dire. Donc,
ça veut dire quoi?
Vous en avez trop dit ou pas assez, là?
C'est sur France Info, cette concurrente, mais.
Mais quel est le but alors, Alexis? C'est quoi le but?
Le plus vite possible.
L'immunité. Ok, d'accord. Okay. On restera là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour ce débat. Elisabeth Lévy, Éric Revel, Alexis.
Vivant, comme d'habitude.
Poulain, merci à vous trois. Et puis, vous nous appelez un 0826 300 300 pour être à l'antenne avec nous, pour agir sur les sujets d'actualité dont vous voulez parler finalement
ce
matin.
Tout à l'heure, on en parlait là, mais on parlera de cette annonce à la ministre du Travail qui propose un accès.
Les concertations aujourd'hui qui
à la vaccination aux travailleurs de deuxième ligne et on aura pour invité Jean-François Besse, agent de maîtrise dans la collecte des déchets en Dordogne. Tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
À suivre dans la prochaine demi-heure de 9h15 jusqu'à 10h, nos invités, deux invités, la journaliste Françoise Laborde et Michel Créoff, c'est l'ancienne vice-présidente du Conseil National de la Protection de l'Enfance. Elles viennent de signer un livre coup de gueule, vraiment passionnant, Les Indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République aux éditions Michelon. Vous le verrez. Hein, les
constat et solution.
Ah, ouais, voilà. Oui. Constat, coup de gueule, avec
de gueule
des propositions.
Et des propositions très concrètes.
Exactement. N'hésitez pas, bien sûr, à nous appeler au 0800 26 300 300 si vous voulez échanger sur ce sujet, ou d'autres, d'ailleurs, en file au standard.
Bah oui, 0800 26 300 300, effectivement, c'est le numéro pour être à l'antenne avec nous. Et on est avec Anne, qui nous appelle de Paris. Bonjour Anne.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue sur Sud Radio. De quoi vous vouliez parler ce matin ?
Mais c'était à propos de la laïcité.
Oui.
Oui. Alors moi, j'en parle parce que moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger, et quand je suis revenue à Paris, où j'avais pas été depuis un certain temps, ben j'étais frappée parce que parce qu'on parle de certaines banlieues sensibles, de la tenue vestimentaire dans certaines banlieues sensibles, mais à Paris, vous allez dans des quartiers, par exemple, moi je suis dans le 15e, mais vous allez non loin, entre Plaisance et la Porte-Vence, 70% des femmes sont voilées.
C'est-à-dire qu'il y a une forme de communautarisme au-delà des quartiers dont on parle en permanence.
Effarant. Moi, d'une autre commune que je fréquentais pas mal il y a une vingtaine d'années, le Kremlin-Bicêtre. Mm-hmm. Provenez-vous le soir en été au Kremlin-Bicêtre. C'est non seulement des personnes voilées, mais en plus avec la robe longue, enfin les manches, enfin c'est... Vous avez toujours dans la même commune un grand centre commercial. Sur le parvis, régulièrement, il y a des prédicateurs. Ça dérange personne.
Et il n'y a rien qui se passe. D'ailleurs, c'est notre sondage. Hein. Oui, je ne sais pas si vous avez voté sur les réseaux sociaux, hein, Twitter et Facebook.
Avez-vous
notre
l'impression,
question du jour. Pour vous, c'est clair.
Ah, puis moi, c'est... Moi, écoutez, je...
Est-ce que vous attendez du coup quelque chose de ces états généraux de la laïcité qui démarrent aujourd'hui avec Marlène Schiappa, qui se dérouleront jusqu'en juin avec, notamment on parle de cette plateforme de discussion avec 50 000 jeunes autour de la laïcité, vous y croyez ? Pas de loi, un débat ?
Moi je n'y crois pas trop, honnêtement. Parce que là, le phénomène a pris une telle ampleur, que moi, ça m'interpelle. Hein. Je vais avoir 68 ans. Vous allez dans des hôpitaux bien connus. Vous allez dans des grandes surfaces ou quoi. C'est bon, de plus en plus de femmes qui et on voit bien que c'est pas. C'est vraiment pour cacher leur chevelure, quoi. Donc c'est ça que moi qui me met mal à l'aise. Vous voyez.
C'est les signes religieux ostentatoires, en gros,
oui,
c'est
oui,
ça,
oui.
C'est
écoutez,
ça qui vous gêne.
Pas plus tard que ce matin, bon, mais aussi dans la tenue des hommes, mais je vois les agents de la mairie de Paris là, qui font le nettoyage. Mais il y en avait un sous sa blouse.
Alors là, c'est,
bon,
oui.
On voyait bien qu'il avait la tenue du.
C'est peut-être
du
autre chose.
Quoi.
C'est peut-être autre chose là en l'occurrence, parce que vous parlez de quelqu'un qui exerce eh bien, un métier, une fonction publique,
oui.
Et après, il y a l'espace de la rue.
Ouais. Mm-hmm. Oui.
Mais
même dans les hôpitaux, hein, même des internes, oui. Femmes, ou bien des stagiaires, de plus en plus, on voit que... Voilà.
En tout cas, Anne, merci d'avoir partagé votre opinion sur Sud Radio. Vous continuez bien sûr de nous appeler 0826 300 300 si vous avez effectivement eh bien, un avis à donner à l'antenne sur Sud Radio, envie de réagir ou de partager éventuellement votre quotidien, votre ressenti en tout cas.
Voilà, allez, on poursuit ce petit déj de l'actu avec ces nouvelles annonces. La ministre du Travail qui propose un accès prioritaire à la vaccination aux travailleurs de la deuxième ligne, hein, dont font partie d'ailleurs les éboueurs. Et on est en ligne avec Jean-François Besse, il est agent de maîtrise dans la collecte des déchets en Dordogne et membre du syndicat SMD3. Bonjour.
Bonjour Jean-François Besse.
Oui, bonjour.
Bienvenue
bonjour.
Sur Sud Radio. Alors, on a eu le plaisir de vous accueillir déjà à l'antenne. C'est en novembre dernier et on souhaitait vous entendre forcément de nouveau avec cette actualité qui concerne directement votre profession. Déjà, vous concernant, je crois que vous êtes déjà vacciné, hein, c'est ça ?
Voilà, moi j'ai eu l'occasion de me faire vacciner parce que mon épouse a une très grosse pathologie.
Ouais.
Donc quand on a pris rendez-vous chez le médecin, j'ai dit mais moi éventuellement, mais il me dit éventuellement si vous voulez je vous vaccine aussi. Donc ben c'est tombé, j'ai été vacciné juste avant qu'ils arrêtent un peu AstraZeneca, vous savez pendant 48
oui.
heures ou
ouais, les fameuses
voilà,
48 heures.
Mais c'était juste voilà, juste
en attendant l'avis européen.
Alors, il m'a dit bon, on fait quoi, tu es décidé quand même. même à le faire. J'ai dit oui, bien sûr, je me fais vacciner, puis voilà.
Donc, vous avez pas, en gros, vous n'avez pas hésité sur alors que ce soit ce vaccin, donc AstraZeneca ou un autre. En tout cas, pour vous, c'était une évidence au-delà de, j'imagine, un sentiment de responsabilité vis-à-vis de votre femme, mais peut-être au-delà.
Oui, oui, au-delà, parce que de toute façon, il faut se faire vacciner. Que ce soit Pfizer, n'importe, il faut se faire vacciner. Un vaccin, il y a des risques, on le sait. Qu'est-ce que vous voulez, le pourcentage est quand même minime pour ceux qui ont des
il est très, très faible sur les cas de thrombose,
voilà,
effectivement.
Il faut regarder, même que... Voilà, moi j'ai une nièce qui est infirmière à domicile, qui a attrapé le Covid...
Ouais.
Avec son mari. Son mari est quand même une personne qui a fait du rugby, qui a 35 ans aujourd'hui, qui a fait du rugby, qui fait
un bon gabarit.
30 kilos. Un bon, très très bon gabarit. Je peux vous dire, ils ont été sérieusement malades. Mmh. Quand on voit ça, ils ont été tous les deux atteints. Un exemple, il avait du mal à aller ouvrir ses poules et fermer ses poules devant chez lui à 20 mètres. Il me dit que j'étais séché.
Fatigue,
séché.
Ouais.
Il me dit j'ai passé 10 jours, il me dit mort. Enfin, mort physiquement, il me dit je pouvais pas bouger, quoi. Donc quand on voit ça, quand on est confronté à ça, on se dit, ma foi, on a quand même la responsabilité de dire, bon, il faut essayer de faire quelque chose, et puis il faut quand même penser aux personnes, au personnel hospitalier qu'on a applaudi l'année dernière.
Ouais.
Et maintenant,
ça paraît loin. Quand on le dit, au départ,
on se dit non, je ne veux pas me faire vacciner, mais le jour où les gens seront devant le fait accompli, ils seront bien contents que quelqu'un les soigne. Mais ces personnes-là sont en première ligne.
Bien sûr. Jean-François, concernant votre métier aussi, parce qu'on parle des premières lignes, effectivement, avec le personnel soignant, mais il y a aussi donc cette seconde ligne, comme l'appelle effectivement Elisabeth Borne, la ministre du Travail, avec une concertation prévue au ministère. Ce matin, avec les partenaires sociaux, pour choisir un peu les professions qui seront concernées par cette vaccination prioritaire réservée aux plus de 55 ans. Vous-même, vous êtes favorable à l'ouverture de cette vaccination aux éboueurs. Que disent vos collègues là-dessus, sur ce sujet ?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se feraient vacciner si on mettait... Pourquoi mettre une barrière d'âge ? Pourquoi ? C'est une absurdité. On dit aux personnes, bon, prioritaire, d'accord, admettons les éboueurs, les ambulanciers, etc. D'accord, prioritaire. Mais n'importe quelle personne devrait pouvoir se faire inscrire. Vous voyez bien que ce week-end, ils ont fermé un centre
à Nice, ouais.
de vaccination parce qu'il n'y avait personne. Il y aurait des personnes peut-être en dessous de 55 ans qui se seraient fait vacciner. Mais pourquoi on met cet âge-là ? Non.
Parce qu'il y a une difficulté.
On ouvre la vaccination à tout le monde. Et par contre, on dit, ben voilà, il y a priorité. Et puis après, ben écoutez, vous n'êtes pas prioritaire, mais vous êtes en seconde liste. Si on peut, on prend. Ouais. Et puis voilà. Pourquoi mettre un âge ? Pourquoi ?
Bien sûr. Et puis on l'a vu alors sur le centre départemental de Nice, c'était sur rendez-vous. On a vu hier, on avait un invité justement là-dessus, des pompiers de l'Ardèche, où effectivement ils ont mis en place. Alors là, c'était des vaccinations sans rendez-vous. Et en fait, les gens viennent plus aussi. Et finalement, l'organisation, voilà, elle est peut-être meilleure. Mais parce que vous, justement, sur les éboueurs, les Reapers, vous avez eu des cas de Covid, des cas contacts, comment ça a perturbé aussi toute l'organisation chez vous ?
Oui, un petit peu. Heureusement,
en particulier,
heureusement, faut toucher du bois. Hein, parce que heureusement, on n'a pas eu vraiment de cas Covid. On a eu des cas contacts.
Ouais.
Voilà, parce d'accord, que les épouses des personnels travaillant ailleurs, il y a eu des cas contacts, donc ils n'ont pas travaillé. C'est sûr que ça remet toute un emploi du temps en question. Bon, mais ça encore, on a eu de la chance de ce côté-là qu'on n'ait pas de problème, parce que nous aussi, notre métier ne va pas s'arrêter.
Oui, bien sûr. Ben, on l'a vu sur le premier, ne serait-ce que sur le premier confinement.
Voilà, on est confronté quand même à la collecte des déchets. Je peux vous dire, moi, j'ai jamais autant ramassé de masques en ce moment, qui traînent partout. Parce que,
c'est l'occasion de rappeler un message important à la poubelle, les masques. Hein. Ouais, bien sûr, ça c'est important.
On a des masques partout qui sont là dans la nature, quoi. Autour des emplacements, il y a des masques partout par terre. Ça, on arrive à l'admettre, c'est normal. Mais voilà, c'est tout. Après, ne mettons pas de barrière d'âge pour la vaccination, qui est une priorité, je suis d'accord, mais après, ouvrons la vaccination.
J'entends,
parce que les pays où il y a une majorité de la population qui a été vaccinée sont quand même en train de sortir du confinement.
Après, si on pense à la Suisse ou par exemple ou Israël, c'est des pays où il y a aussi, un nombre d'habitants moindre par rapport à la France. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais juste pour revenir sur vos collègues, Eboueur et Reaper, ils seraient prêts à se faire vacciner s'ils étaient justement profession prioritaire pour le vaccin ?
Je pense, oui. Je pense, oui. Je pense qu'il y en a beaucoup, oui. Parce qu'ils disent souvent, mais bon, de toute façon, je n'ai pas l'âge, je n'y vais pas. Hein. Il faut se dire qu'on n'a pas quand même beaucoup de jeunes. On est dans une catégorie d'âge entre 45 et 60 ans, quoi. Moi-même, j'en ai 61. Ouais. Mais voilà, donc, parce que les reapers, ils ont tendance aussi un peu à disparaître, puisqu'on a changé de système de collecte. Mais voilà, ils seraient prêts à se faire vacciner, c'est sûr.
Bah merci en tout cas pour votre témoignage, Jean-François Besse, agent de maîtrise dans la collecte de déchets en Dordogne, membre du syndicat SMD3. Bonne continuation à vous et bonne journée, bien sûr.
Ouais, bon courage. Allez, à suivre dans quelques instants nos invités, la journaliste Françoise Laborde et Michel Créoff, ancienne vice-présidente du Conseil national de la protection de l'enfance, pour un livre qui va vous faire réagir, j'en suis sûre, Les Indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République, et c'est aux éditions Michelon. N'hésitez pas bien sûr à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite.